Jesus Christus.
Le suspect aurait agi seul. L'enquête progresse après l'attentat à la voiture Bélier à la Nouvelle-Orléans. Sur place, nous l'entendrons, la population veut maintenir le caractère unique et festif de la ville. La tuerie au Monténégro, également le soir du Nouvel An, révélatrice de la force présence d'armes à feu dans ce petit pays des Balkans. L'analyse à suivre de notre correspondant. C'est une éternelle pomme de discorde entre Haïti et la France. Le nouvel homme fort du pays demande une nouvelle fois à l'Hexagone de rembourser la dette payée par Haïti à la France. C'était au 19e siècle. Et puis la nouvelle année n'est pas signe de répit pour l'enclave palestinienne de Gaza. Ces dernières heures, les combats ont été particulièrement violents. Nous reviendrons sur l'évolution des armes utilisées par Israël.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonsoir à toutes et à tous. Au lendemain de l'attentat qui a endeuillé la nuit du Nouvel An à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, le pape François fait part de sa profonde tristesse et assure de ses prières les familles des victimes et des blessés. Sur place, l'enquête avance. L'auteur présumé des faits est un citoyen américain, originaire du Texas et ancien militaire déployé en Afghanistan. Dans sa voiture se trouvait un drapeau de l'État islamique à qui l'homme avait prêté à Selon le FBI, il aurait agi seul et deux bombes artisanales avaient été également posées dans le quartier attaqué. Le bilan provisoire est de 15 morts. C'est le cœur festif de la plus grande ville de Louisiane qui a été visée. Et si la sidération s'est emparée bien sûr des habitants comme des nombreux touristes, ils ne veulent pas laisser la peur gagner. Le reportage de Loïc Loury.
Le French Quarter, habituellement si animé, était hier bien silencieux tout autour. Des gyrophares de police et des barrages bloquant l'accès à Bourbon Street, là où le carnage s'est produit. Steven, un habitant du quartier.
On était dans un club sur Bourbon Street, mais ils ont rallumé la lumière et dit que tout le monde devait rentrer à la maison parce qu'il y avait eu une fusillade. On pensait à une embrouille de quartier jusqu'à notre réveil. J'ai paniqué, je tremblais. Je peux toujours pas y croire.
Un peu plus loin, Jennifer, toute de plumes vêtue, incarne, dit-elle en français, la joie de vivre propre au quartier et à la Nouvelle-Orléans.
Bien sûr, aujourd'hui, l'atmosphère, l'énergie sont très différentes, mais je devais me montrer, apporter de la joie. C'est dans les moments comme ça que la lumière doit briller dans les ténèbres.
Denise, elle est de passage à la Nouvelle-Orléans et d'y croire à la résilience de ses habitants.
Je continue à me sentir en sécurité. Le moral des gens ici est très fort. De la même façon que l'ouragan Katrina n'a pas brisé cet esprit, cette attaque ne le fera pas non plus. Les habitants de la Nouvelle-Orléans se relèveront.
Et de résilience, la plus grande ville de Louisiane en aura bien besoin, elle qui attire chaque année près de 18 millions de touristes. La Nouvelle-Orléans, Loïc Loury, Radio Vatican.
Et un autre drame le soir du Nouvel An, c'est au Monténégro. Un homme ivre s'est saisi de son arme et a tué 12 personnes. Un fait divers révélateur de la très forte présence des armes dans ce petit pays des Balkans. L'analyse de Simon Rico.
Avant l'été 2022, Cetinje était surtout connue pour avoir été l'ancienne capitale royale du Monténégro. Depuis, la petite ville a été endeuillée par des règlements de compte mafieux et deux fusillades mortelles qui ont fait au moins 25 victimes. Après la tuerie d'hier, déclenchée par un quadragénaire ivre à cause d'un différend dans un restaurant, les autorités ont vite déclaré 3 jours de deuil national. Mais le Monténégro va surtout devoir prendre des mesures drastiques, rapidement, pour empêcher que ne survienne un nouveau drame. La prolifération d'armes à feu pose notamment question alors que des études assurent qu'il y en aurait près de 250 000 en circulation, un chiffre énorme pour une population d'à peine 620 000 habitants. Plus de la moitié de ces armes seraient même détenues illégalement, une partie ayant été volée à l'armée yougoslave au moment des guerres des années 90. Il faut dire que posséder un pistolet ou un fusil reste un symbole de puissance et de virilité dans cette société clanique et patriarcale. Plusieurs mesures ont bien été annoncées ces dernières années pour limiter leur prolifération, mais aucune n'a concrètement été mise en œuvre. Simon Rico, Belgrade. pour Radio Vatican.
La fin du transit du gaz russe via l'Ukraine a déjà des conséquences en Moldavie, plus précisément dans la région séparatiste pro-russe de Transnistrie dans le nord. Toutes les entreprises industrielles sont à l'arrêt, à l'exception de celles qui produisent de l'alimentation. Les examens universitaires de ces prochains jours se feront à la maison. Les 450 000 habitants de la région sont invités par le gouvernement moldave à s'habiller chaudement et à se regrouper dans une seule pièce. Pour l'instant, le reste de la Moldavie est épargné, notamment grâce à l'aide de la Roumanie voisine qui livre de l'énergie. Dans les eaux entre la Russie et la Crimée annexée, cette fois la marée noire continue de s'étendre. Après le naufrage de deux pétroliers russes à cause d'une tempête mi-décembre, plus de 200 000 tonnes de sable pourraient avoir été polluées sur des dizaines de kilomètres de plage côté russe. Autorités et bénévoles organisent des campagnes de nettoyage, mais selon un groupe de scientifiques russes, ils ne disposent pas de l'équipement adéquat. Direction maintenant Haïti. Le président du Conseil de transition, Leslie Voltaire, a reformulé une demande récurrente que la France rembourse une dette imposée à son pays après l'indépendance au début du 19e siècle. Une demande qui rejoint finalement la supplication du pape François pour le jubilé 2025, l'annulation de la dette pour les pays les plus pauvres, Jean-Benoît Harel.
Oui Marine, c'est un sujet qui revient souvent dans les relations entre la France et Haïti depuis des dizaines d'années. Hier, à l'occasion du 221e anniversaire de l'indépendance d'Haïti, le président du Conseil de transition, Leslie Voltaire, a renouvelé sa volonté de voir le remboursement de ce qui constitue, je le cite, « une injustice inqualifiable et une meurtrissure qui ne cesse de hanter notre mémoire ». Alors il faut remonter en 1825 pour comprendre le problème. La France, mise dehors par les anciens esclaves révoltés de Saint-Domingue en 1804, impose alors au gouvernement haïtien le règlement d'une somme pour compenser les pertes financières de l'indépendance. Près de 100 millions de francs or qu'Haïti versera jusqu'en 1883. Mais ce n'est pas tout, car l'emprunt pour payer cette somme a été réalisé auprès de la France, qui reçoit donc les intérêts jusqu'au milieu du XXe siècle. Selon une enquête du New York Times, cela représenterait environ 525 millions d'euros en valeur actualisée. S'il s'agit ici du remboursement d'une dette considérée comme injuste, les appels des souverains pontifes pour annuler les dettes des pays les plus pauvres sont nombreux, mais peu écoutés. Jean-Paul II, lors du jubilé de 2000, mais également le pape François, qui dans sa bulle d'indiction du jubilé de l'espérance, encourage à remédier aux causes profondes des injustices en apurant les dettes injustes et insolvables.
Merci Jean-Benoît Harel pour toutes ces précisions. Un nouveau drame lié aux migrations. Au large de la Tunisie, deux embarcations de fortune lancées vers l'Europe ont coulé. Avec à leur bord environ 110 personnes, 80 ont pu être secourues. Des candidats à l'exil, tous originaires d'Afrique subsaharienne. Cette nouvelle année est déjà marquée par des frappes mortelles dans la bande de Gaza, alors que le bilan s'élève à plus de 45 000 morts depuis le 7 octobre 2023. Israël a hier menacé d'intensifier ses frappes sur l'enclave palestinienne si le Hamas ne permet pas prochainement la libération des otages. Des menaces israéliennes souvent exécutées depuis l'intifada de 2000, les armes utilisées contre les Palestiniens sont devenues de plus en plus létales, comme nous l'explique depuis Jérusalem Valérie Ferron.
Depuis l'intifada à Al-Aqsa il y a 25 ans, Israël a régulièrement procédé à des bombardements dans la bande de Gaza qui se sont intensifiés à chaque offensive après la prise du pouvoir du Hamas de ce territoire en 2007 pour devenir sans précédent depuis un an, quand bien même ils sont inefficaces militairement contre les factions palestiniennes. Dès l'offensive de 2008, des soldats israéliens expliquaient la difficulté à diriger des chars et des avions quand tous les repères géographiques, comme les carrefours, ont été pulvérisés. Ces bombardements sont en revanche redoutables contre les populations civiles, avec de plus en plus de missiles qui déchiquette les corps et de nouvelles balles destructrices pour les tissus, comme l'ont constaté sur place des équipes de médecins. Israël a de plus en plus recours par ailleurs à l'intelligence artificielle pour élargir sa base de données de cibles potentielles et son armée utilise des drones militaires qui servent à achever des blessés après les bombardements, à remplacer les snipers et à terroriser les familles déplacées. Les médecins signalent par ailleurs depuis deux mois l'apparition de d'autres armes qui ne déchiquettent plus les corps, mais les désintègrent. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Et avant de refermer ce journal en Jordanie, le pape François a nommé le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, pour être son représentant lors de la consécration d'une église le long du Jourdain, un des sites reconnus comme pouvant être le lieu du baptême du Christ. Cette consécration se tiendra le 10 janvier prochain. Merci de votre fidélité. L'information revient demain en direct de Rome à 8h30. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée.